Vie en Bleu avec Cédric Frémy sur France Bleu Provence.
Et notre expert Lionel Bourreau, ingénieur et maître d'œuvre. Vous étiez nombreux il y a 15 jours à poser vos questions à Lionel, des questions sur des abris ou des caravanes. Je crois qu'ils devaient être maintenus sur un terrain, mais est-ce qu'on a l'autorisation ou pas?
Voilà. Absolument, oui.
Est-ce qu'on a le droit d'installer une fenêtre de toit sans autorisation? Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles vous pouvez répondre, Lionel. Alors là, je suis un peu surpris parce que Mélissa me dit que c'est très calme au 04 42 38 08 08. Bah allez-y, voilà, il y a de la place. Ne vous dites pas que vous n'arriverez pas à nous joindre. Non, non, c'est bon, il y a de la place. 04 42 38 08 08 pour participer aux experts. Lionel est venu rien que pour vous jusqu'à 10h répondre à vos questions. Donc notre maître d'œuvre et ingénieur. Bon, Lionel, quand on se lance dans des gros travaux, par où commencer? C'est vrai, souvent, on a souvent une envie de, bah voilà, de parler des fenêtres de toit ou de faire une extension de sa maison. Mais voilà, par où commencer? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser.
En fait, il y a deux notions à prendre en compte. Il y a la notion administrative, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et puis il y a la notion technique, est-ce que je dois faire appel à un artisan ou à plusieurs artisans, auquel cas il faut les coordonner. Et là, peut se poser des questions de dans quel ordre je les fais intervenir, qui j'appelle en premier et quel prix je dois payer. Donc effectivement, dans ces conditions, ça peut être intéressant de s'appuyer sur un professionnel qui va coordonner tout ça et qui, a priori, doit apporter une synthèse et une gestion globale d'un petit projet. Mm-hmm. Après, si on a simplement une fuite d'eau, on appelle un plombier, ouais. Le problème, il est réglé. Après, pour la question administrative, effectivement, mm-hmm. quand on veut faire des petits travaux, parfois, on ignore ou on oublie la question administrative. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Là, il faut se renseigner. Les mairies sont très compétentes en la question.
Et ça change selon les municipalités ?
Ça change selon les municipalités dans le sens où les villes peuvent avoir, enfin, ont recours à des plans locaux d'urbanisme.
Ouais, les PLU.
Des PLU qui régissent les réglementations urbaines dans les communes. Ouais. Certaines n'ont pas encore adopté de PLU, d'autres en ont adopté. Et en fonction de cela, les réglementations changent, les autorisations changent. Donc effectivement, ça vaut le coup de se renseigner auprès de sa mairie pour savoir par quoi je commence.
Et alors, si c'est possible, ça peut prendre du temps? Ou c'est rapide d'avoir une autorisation?
Aujourd'hui, les procédures, les autorisations, elles ont été accélérées, notamment pour les particuliers. Après, il faut faire les choses dans les règles. Si effectivement, on fait une démarche sur un terrain agricole et qu'on ne se renseigne pas au préalable pour savoir si le terrain agricole, il est classé en agricole ou en forestier naturel, y a des choses qui vont bloquer mm-hmm. et qui vont faire que le dossier va prendre du temps. Mais les démarches sont assez rapides.
Mm-hmm. Et faciles
Facile, oui, si on s'attache les services d'un professionnel, et si la question c'est simplement de rajouter une clôture, on peut s'en sortir seul. Mais pour ça, il faut pas hésiter à s'attacher les services, à aller voir les services de la mairie, mm-hmm. qui sont très compétents en la matière mm-hmm. et qui souvent aident les particuliers notamment à faire leur dépôt eux-mêmes, si tant est qu'il soit assez simple.
Ouais. Allez, vos questions à Lionel Bourreau sur les gros travaux, les démarches, les crédits d'impôt, le choix des artisans, les autorisations. 04 42 38 08 08, notre maître d'œuvre et ingénieur répond à vos questions jusqu'à 10h dans les experts de l'été. Bonjour Andrea et merci de nous rejoindre, vous habitez Trèves. Alors, quelle est votre situation Andrea?
Alors voilà, moi je vois beaucoup sur internet, à la télé, tout ça, que on peut avoir des travaux qui sont faits pratiquement gratuitement pour 1 €. Je voudrais savoir d'abord si c'est vrai. Et ensuite, ce que je voudrais, voilà, moi j'ai un garage qui a été fait en parpaing et il n'est pas du tout isolé. Je voudrais savoir si c'est possible de l'isoler, parce que l'hiver il fait très froid.
Alors, la question sur l'euro.
Alors, l'euro, oui, il y a des entreprises qui proposent l'isolation pour 1 €, mais il faut être très vigilant sur ces entreprises oui. qui le proposent, parce que c'est de la publicité, hein, c'est du commercial. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher il y a une agence départementale de l'information sur le logement.
Ah, l'ADIL.
Oui, absolument. ADIL. Et puis il y a le réseau FAIRE qui vous renseigne sur ces démarches.
Oui.
Les entreprises, elles vous proposent à 1 € leur service, mais il faut rentrer dans un cadre.
Ah, d'accord.
Voilà, donc vous avez tous les renseignements sur ce cadre disponibles sur Internet directement auprès de ces agences.
D'accord, ben j'ai noté à mesure, donc ben je vais me renseigner là, parce que ça m'étonne beaucoup que pour un euro, on vous fasse des travaux très importants, quoi.
En fait, vous bénéficiez d'aides qui correspondent à des déductions d'impôts, que vous soyez imposable ou pas. Si vous n'êtes pas imposable, vous avez des remboursements à hauteur de jusqu'à hauteur de 30% des travaux que vous effectuez.
Non, moi je suis imposable, mais bon.
Donc vous aurez une déduction, vous pourrez bénéficier d'une déduction d'impôt. Voilà.
D'accord, ben je vous remercie.
C'est pour cette partie.
Et après, puis pour la deuxième question, la deuxième partie, là, sur les conseils pour isoler un garage.
Alors oui, vous avez tout intérêt à isoler votre garage, surtout s'il est attenant à votre partie habitable.
Oui.
Bien souvent, on ne le fait pas pour des raisons économiques ou même techniques au départ, mais effectivement, faites-le. Vous avez tout à gagner à isoler votre garage, bien évidemment.
Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il est conseillé ? Parce que moi, comme j'ai beaucoup de tuyaux qui passent à l'intérieur, j'ai un forage, j'ai l'eau du canal. Est-ce qu'il est plus préférable de le faire par l'extérieur ou...
Alors, une isolation par l'extérieur, elle est plus efficace à partir du moment où vous prenez bien en compte l'enveloppe globale de votre maison. Ça veut dire que si vous faites une isolation par l'extérieur, il faut creuser au pied des murs périphériques de votre maison pour aller descendre l'isolation jusqu'aux fondations.
Ah d'accord.
Voilà, donc ça ça nécessite un petit peu de travail supplémentaire, mais vous aurez un résultat énergétique qui sera meilleur. Voilà, donc ça va générer un petit surcoût, l'isolation par l'extérieur, parce qu'en plus, une fois que vous avez votre isolant extérieur, il faut l'habiller.
Ah d'accord.
Voilà, donc l'isolant enterré, pour l'enterrer, il faut... Au départ, après vous allez avoir plus de bénéfices à isoler par l'extérieur. Après voilà, l'isolation par l'intérieur, elle peut être déjà très efficace, voilà. Et ne pas ignorer, vous avez non seulement une isolation des murs, donc une isolation verticale, mais vous avez aussi une isolation horizontale, souvent sous toiture. On néglige les isolations sur toiture alors qu'on a des grosses variations thermiques qui fluctuent au niveau des toitures. Ça c'est aussi très très important. Ah bon, déjà c'est très bien. Voilà. Donc vous avez l'isolation verticale. Donc la question qu'il faut se poser, c'est voilà, par l'extérieur, vous aurez peut-être un petit surcoût au départ, mais
un bénéfice au long terme.
Mais un bénéfice au long terme.
Voilà, Andrea, pour toutes ces réponses.
De votre part, me renseigner si facilement.
Eh bien, on est à votre service. Voilà, les experts tous les matins à vos côtés sur France Bleu Provence. Merci, Andrea, pour votre fidélité.
Merci beaucoup.
Et à bientôt, à Traits. Vos questions à Lionel Bourou, notre maître d'œuvre, ingénieur, sur les gros travaux, les démarches, les autorisations, le choix des artisans, la réglementation, les crédits d'impôt. 04 42 38 08 08.
France Bleu. La playlist de votre été.
Vous rappelez Lionel ce tube? Barbra Streisand.
C'est toute ma jeunesse.
You. Vous êtes si jeune que ça? Waouh, vous n'y faites pas. Doug Sauce sur France Bleu Provence dans la playlist de votre été avant la suite des experts de l'été. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand.
said. Barbra Streisand. Streisand.
Sur France Bleu Provence avec Barbra Streisand. Un rappel circuit à 10h moins le quart. Un accident sur la 8 en direction d'Aix-en-Provence, un petit peu avant Brignoles. C'est entre Le Luc, le Canet des Morts et Brignoles. La voie de droite est fermée, serrée bien à gauche. Il y a 4 km de bouchon et vous mettez 3 quarts d'heure pour gagner du temps. Vous quittez l'autoroute au Canet des Morts. Vous prenez la Nationale 7 en traversant Le Luc, Flassan et en récupérant l'autoroute à Brignoles. France Bleu. Top chrono, commune de 5555 habitants, réputée pour l'abbaye de Sylvacane et le labyrinthe géant d'un parc d'attractions sur la thématique des frères Grimm.
La Roque d'Enterron.
Oh yeah. Et c'est un week-end de détente et de loisirs à la Roque d'Enterron que vous allez pouvoir gagner par tirage dans le Provence Poursuite. Une nuit insolite dans une perle magique et une journée d'aventure en famille. Le repas, la visite de l'abbaye et d'autres surprises. Pour jouer, rendez-vous toute la semaine dans le Provence Poursuite. Attention, cet été sur France Bleu Provence, le Provence Poursuite, c'est de 11h à midi.
La vie en bleu sur France Bleu Provence.
Avec Lionel Bourreau, notre maître d'œuvre ingénieur, 04 42 38 08 08, vos questions sur les gros travaux de la maison ou du jardin. Bonjour Abdel, à Aix-en-Provence.
Bonjour Cédric.
Bonjour.
Alors Lionel, oui, vous écoute.
Oui, en fait, ce que je voudrais faire, je suis propriétaire d'un appartement en centre-ville d'Aix et je voudrais faire tomber un mur qui me paraît être maître. Et je voulais savoir comment on s'y prend, est-ce qu'avec la copro ou est-ce que...
Ah oui, donc voilà. C'était la première question que j'allais vous poser. Vous êtes en copropriété?
Oui.
Et vous avez donc un mur maître qui vous dérange.
Un mur maître, c'est un mur porteur.
C'est un mur porteur.
Ouais.
Donc vous avez, bon, d'un point de vue administratif, vous avez l'obligation de passer par une assemblée extraordinaire pour demander l'autorisation de tous les copropriétaires.
D'accord.
Faut que ce soit à l'unanimité.
Faut que ça soit à l'unanimité. Ouais, donc c'est assez lourd comme démarche. Donc je vous invite à prendre contact auprès de votre syndicat de copropriété pour que ça soit inscrit à cette assemblée.
À l'ordre du jour. Ouais.
Voilà. Ensuite, faut savoir que étant donné que vous êtes en copropriété, faire tomber un mur maître en soi techniquement, ça représente pas des difficultés techniques très importantes. Par contre, ça va générer des nuisances. Donc effectivement, non seulement il faut obtenir ces autorisations auprès du syndicat de copropriété, mais il faut bien vous faire le point avec vos voisins. Et dans l'absolu, il faudrait pouvoir faire constater l'appartement du dessus et l'appartement du dessous s'ils ont des fissures ou pas déjà. Parce qu'il se peut que quand on casse le mur maître, ça génère des petits problèmes connexes. Donc,
Des
dommages collatéraux. Donc ça, c'est très important de vous en soucier auparavant parce que comme par hasard, une fois que vous avez fait vos travaux, il y a peut-être des fissures qui vont apparaître. Peut-être qu'elles y étaient déjà avant vos travaux, mais il y a peut-être des voisins qui vont s'en servir pour jouer sur ce point-là. Donc en théorie, vous pouvez même aller jusqu'à faire un constat d'huissier, demander un constat d'huissier dans les appartements au-dessus et en dessous. Ensuite, d'un point de vue technique, l'idéal, c'est de faire appel. Enfin, c'est même une obligation, c'est de faire appel à votre syndicat de copropriété. D'ailleurs, vous l'obligera. Faire appel à un ingénieur structure qui va dimensionner la reprise de l'ouverture pour ensuite qu'un maçon puisse mettre en place les renforts latéraux et surtout horizontaux.
C'est le fameux IPN.
Il y a un IPN en linteau, en partie latérale, ouais. et puis éventuellement des jambages de part et d'autre, et éventuellement on peut faire un cadre complet en fonction des longueurs d'ouverture à réaliser. À ce moment-là, on met aussi un cadre en pied, quoi. Mais bon, dans une copropriété, on a des réseaux dans les planchers, donc bon, voilà, il y a des petites difficultés.
Voilà ce qu'il vous reste à faire, Abdel.
Oui, juste pour compléter ma question, comment m'en assurer que c'était un mur maître? Parce qu'il me semble que dans les appartements de dessous, ce mur ne continue pas.
Ah, bah alors ça, c'est ça, c'est important.
C'est des vieux bâtiments, vous connaissez le centre-ville d'Aix.
Oui, alors, voilà. Alors
moi, je suis au premier étage et j'ai un mur, j'ai des murs qui sont énormes, ils sont larges, mais dessous, comme il y a des studios, je pense pas que ça traverse des milliers de studios, quoi.
Alors, dans ces conditions, si vous avez des plans d'origine du bâtiment, c'est un plus. Sinon, faites appel à un bureau d'ingénieur structure. Il sera à même de définir s'il s'agit d'un mur maître ou non. Donc là, voilà, c'est un ingénieur structure, il vient, il vous renseigne, il vous fait une note. Cette note, elle est payante, évidemment. Ouais. Et à partir de cette note-là, vous allez voir votre syndicat de copropriété en disant, voilà, c'est un mur maître, c'est pas un mur maître, et voilà ce que je veux faire. Voilà.
D'accord, donc un ingénieur structure pour me faire un devis, quoi.
Absolument, il va vous faire un devis et donc un diagnostic.
D'accord, il faut que je commence par ça, parce que si c'est pas le cas, si c'est pas un mur maître, je peux le faire là-bas, abattre tout simplement, quoi.
Absolument.
D'accord, voilà. Ok.
Voilà, Abdel. Bon merci, courage dans les démarches.
Merci,
à bientôt, merci, Aix-en-Provence. Vos questions à notre maître d'œuvre, ingénieur Lionel Bourreau, 04 42 38 08 08 dans les experts de l'été.
De Saint-Cyr-sur-Mer à hier, en passant par Toulon, en vacances aussi, je trie.
Even on holiday, I do recycle.
In vacanza, faccio la raccolta differenziata.
In vacaciones, yo clasifico.
Auch auf vacances, sorte Eric.
Auch im Urlaub, trenne ich meinen Müll.
Avec le Citomat, pendant les vacances, restons unis pour le tri. Toutes les infos sur le tri sélectif dans l'aire toulonnaise sur le site unipourletri.com. La vie en bleu sur France Bleu Provence.
Gisèle de la Bouillabille a une question pour notre maître d'œuvre, Lionel Bourreau, dans les experts de l'été. Bonjour Gisèle.
Bonjour, et je vous remercie de prendre ma demande.
Avec plaisir, on est là pour vous rendre service.
Voilà, donc je vais essayer de faire court, sachant que c'est quand même une histoire relativement longue. J'ai fait construire en 92, donc j'habite dans cette maison depuis 93. J'avais encore les cartons de déménagement quand j'ai eu les premières inondations. Donc c'est de l'eau qui par l'eau de pluie, parce que devant ma porte d'entrée, j'ai un terre-plein. Donc quand il pleut, ça s'infiltre et ça passe par le dessous de la porte d'entrée. Je le sais parce qu'il y a des années que j'éponge. Mais quand je dis que j'éponge avec des couvertures de lit. Je vois l'eau passer. C'est pas rien, quoi. Voilà. Bon, bref, j'ai pris un avocat qui n'a rien fait. Si, il m'a pris de l'argent, mais il n'a rien fait. Et là, j'ai fait, en 2017, j'ai fait faire par un maçon, soi-disant de bonne renommée, un drain. Pour éviter que l'eau rentre dans la maison. Il m'a fait le drain beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Le drain ne fonctionne pas, il sert à rien. Donc il est revenu, il m'a mis une dalle devant la porte d'entrée, ça fonctionnait pas, toujours de l'eau. Il est venu pour casser la dalle avec le brise-roche, il en a cassé une partie puisque son brise-roche est tombé en panne et il a disparu dans la nature. Lui, le brise-roche et tout le reste. Voilà, donc depuis je suis là avec une dalle à moitié cassée. Voilà. En plus, quand il a fait le terre-plein devant propre après avoir fait le drain, il a mis un gros plastique. Vous savez les plastiques noirs qu'on met pour la récupération d'eau pour les poissons rouges dans le jardin? Il m'a mis ça. Et par-dessus, il a mis du gravier. Voilà. Donc, j'ai fait venir sa dommage ouvrage qui m'a dit, nous n'avons pas d'obligation de résultat.
Ah.
Dossier classé sans suite.
Et voilà. Vous en êtes là, Gisèle.
Et j'ai payé 4 500 € pour un drain qui ne fonctionne pas.
D'accord.
Voilà.
L'avis de Lionel.
Alors, bonjour Gisèle.
Bonjour.
Déjà, juste un petit point sur les drains. Le drain, il a vocation à donc récupérer les eaux ruisselantes en périphérie et pour éviter et d'éviter que les eaux s'infiltrent sur les murs de la maison depuis les fondations. Donc, un drain bien posé, c'est un drain posé sur les fondations.
D'accord.
Voilà, donc sur les fondations, ça veut dire qu'on est contre la maison et on est posé sur les fondations. L'eau est récupérée. L'eau, s'il y a de l'eau qui passe encore, parce que des fois on construit sur des petits filets d'eau qui passent sous les maisons, elles peuvent passer sous les maisons, mais en aucun cas elles remontent par capillarité dans la maison. Donc vous dites que votre drain est mal posé, ça veut dire qu'il n'a pas été posé sur les fondations.
Après, non, il n'a pas été posé sur les fondations parce que c'était un risque à ne pas prendre puisque la maison a été faite avec des fondations qui ne sont pas aux profondeurs légales. Donc, à la limite, vaut mieux raser la maison et la reconstruire. Parce que si on fait trop près, ça risque de s'écrouler.
D'accord.
Sachant que quand même, le drain a été fait, devait être fait à une distance et j'ai fait faire, en plus des 4 000 € du drain, j'ai fait faire une avancée, vous savez, pour un abri voiture. hein, pour abri de deux voitures. Donc logiquement, ce drain aurait dû être dessous cet appentis, comme on dit en Provence, et dont l'eau n'aurait pas dû rentrer. Or là, le drain, il l'a fait après l'appentis. Donc j'ai quand même l'eau de la toiture qui tombe sur le sol. Et voilà quoi. Donc ouais. Bon, bref, le fait est que moi, je lui avais dit, parce que bon, quand on y est dans un appartement ou dans une maison, on sait ce qui se passe. Donc moi, je sais par où l'eau rentre. J'y avais dit, c'est là surtout qu'il faut faire le drain et bien faire quelque chose, quoi. Je sais pas, des agglos avec le plastique ou tout ce que vous voudrez, et que l'eau du terre-plein de devant, parce que c'est l'eau du terre-plein qui s'infiltre et qui passe. Et l'eau, à partir du moment où elle a fait son chemin, eh ben, c'est difficile de la dévier, quoi. Voilà. Donc il fallait faire ce drain-là. Donc il m'a fait un drain de 1 mètre en disant, 1 mètre 10, quelque chose comme ça, en disant que c'était 2 mètres. Il a mis du balafre. Il a mis un filet blanc, là, pour ce qu'on met pour empêcher que les herbes le poussent. Mmh. Hein. Et après, il a mis du gravier. Voilà. Et d'accord. Au milieu, il avait mis un tuyau qui est toujours sec, quoi. Il n'y a pas du tout d'eau qui sort, parce qu'il m'a fait passer le tuyau sur l'arrêt 5 du bas. Tranquille, un morceau de tuyau qui sort comme ça. En fait. Franchement, si je l'avais fait, je crois que je l'aurais mieux fait.
Gisèle, l'idéal dans votre situation, oui. C'est il y a des bureaux d'études qui font des études hydrauliques, des maisons qui sont spécialisées. L'idéal, c'est que votre question, vous savez, la gestion hydraulique autour des maisons, bien souvent, elle peut être complexe. Et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte qui, venant se cumuler, font qu'un jour, on a l'eau qui rentre par la porte de la maison, quoi. L'idéal, je sais que ça coûte un petit peu d'argent, mais dans votre cas, si ça peut éviter de raser la maison, c'est un plus.
Ouais. C'est ça, quoi.
Vous avez des bureaux d'études hydrauliques.
Oui, je le conçois, mais part, moi, comment je dois faire par rapport à ce monsieur? Parce que quand même,
on est plus dans un litige.
L'expert qui est venu, il m'a dit, ouais, il faudrait faire un drain là, un autre. J'ai dit, attendez, monsieur, j'ai 73 ans, moi, je suis veuve, j'ai pas d'argent pour faire ça. Il m'a répondu, texto, je vous le jure, il m'a répondu, quand on n'est pas capable d'entretenir sa maison, on la vend.
Oui, bon, ça. Voilà. Mais cet expert-là, c'était un expert mandaté par qui? Par l'assurance de votre maçon?
Oui, par l'assurance du maçon, de sa dommage ou l'ouvrage de monsieur Gaspi.
Voilà, donc il n'était pas impartial, cet expert, puisqu'il défendait les intérêts du maçon. Vous avez une assurance multirisque habitation?
Oui.
C'est cette assurance-là qu'il faut déclencher. Du coup, vous allez avoir.
Je ne prends pas en charge parce que ce sont des travaux qui ont été faits à l'extérieur.
Ah ouais, donc alors ça c'est fonction des assurances.
Non, mais c'est toutes les assurances. Je me suis renseignée sur des amis qui avaient des assurances différentes de la mienne et c'est pareil. À partir du moment où ce sont des travaux extérieurs, ce n'est pas pris en charge. Et je n'ai même pas la possibilité de prendre une aide juridique.
Ouais. Gisèle, on arrive à la fin de l'émission, il est bientôt 10h. Donc pour conclure la réponse de Lionel, qu'est-ce qu'on peut dire à Gisèle alors?
Part de reprendre la genèse du problème par un bureau d'études hydrauliques qui va pouvoir. Parce que la question c'est de régler le problème. Donc pour le régler le problème, il faut s'attacher les services d'un professionnel. Vraisemblablement, ce maçon, s'il était maçon, en tout cas il n'était pas bureau d'études. Ce qu'il faut c'est étudier votre problème d'étude hydraulique. Une étude hydraulique, ça coûte 1 500 euros ou 1 000 euros même, moins que ça. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir les idées claires par rapport à ce qui est nécessaire pour éradiquer l'eau venant dans votre maison. À partir de là, vous pourrez avoir les idées claires. Après, s'il y a aucun recours à faire contre cette entreprise, malheureusement, ça veut dire qu'il faudra refaire des travaux si tant est que le bureau d'études hydrauliques indique ce qu'il faut faire, quoi.
Voilà, allez, on a fait notre maximum, hein, Gisèle, pour vous aider et on a pris le temps de répondre et de vous écouter, surtout avec Lionel Bourou. Bon courage Gisèle dans vos démarches à la Bouilladis. Lionel, c'est déjà fini, merci d'être venu.
Merci.
C'était un plaisir pour nous de vous écouter. Et puis...